Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition des Grands Entretiens. Comme vous le savez, nous commémorons cette année le centenaire de la Révolution de 1917. Pour cet anniversaire, que nous avons déjà évoqué sur Storia Voce à travers notamment la figure de Raspoutine, j'ai souhaité faire une nouvelle émission sur un aspect méconnu de la Révolution bolchevique, à savoir la guerre des Russes blancs. Notre perception des événements de notre histoire est parfois biaisée par le simple fait que nous connaissons précisément la fin de l'histoire. Nous savons par exemple que Lénine puis Staline triomphent, nous savons que l'armée rouge va constituer la grande force rivale des États-Unis pendant la guerre froide. Pourtant, aux origines, il n'en a pas été ainsi. L'histoire, sans tomber dans l'uchronie, aurait pu être différente. En effet, face à la révolution bolchevique, une armée s'est levée, une armée de volontaires, l'armée des Russes blancs. Qui étaient les chefs de cette armée? Comment recrutaient-elles ces soldats? Quelles étaient ses idées, ses victoires, ses défaites aux quatre coins de l'immense Russie? Et pourquoi finalement a-t-elle échoué? Comment les blancs ont-ils pu perdre une guerre dont ils s'étaient vus, tant de fois les vainqueurs? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Jean-Jacques Marie. Jean-Jacques Marie, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous présente à nos auditeurs. Vous êtes historien, grand spécialiste de la Russie. Votre œuvre est absolument immense sur le sujet. Vous êtes spécialiste donc de la révolution russe et de ses grandes figures, Staline, Lénine, Beria. Vous avez publié dernièrement un Beria et chez Talendier, en mars dernier, vous avez publié La guerre des Russes blancs, 1917-1920, sur, comme je le disais tout à l'heure, un aspect méconnu de cette révolution et de cette opposition. Ma première question, Jean-Jacques Marie, sera assez simple. Est-ce qu'il existe dans l'histoire contemporaine une sorte de mouvement équivalent? Est-ce qu'on peut comparer les Russes blancs et son mouvement d'opposition à la révolution bolchevique, par exemple, à l'opposition vendéenne à la révolution française?
On peut répondre à la fois oui et non, parce que l'opposition vendéenne avait comme l'une de ses caractéristiques d'être un mouvement d'une partie de la paysannerie française, sa paysannerie vendéenne bien entendu, qui était marquée à la fois par une espèce de conviction monarchique assez profonde et par un attachement au clergé local, qui faisait que l'une des raisons de son soulèvement était son refus d'accepter la mobilisation de ces jeunes hommes dans l'armée de la République. Et son insurrection est à la fois une action qui a un caractère paysan caractéristique. Et chez les Blancs, c'est assez différent. C'est-à-dire que la masse de la paysannerie, même lorsque les paysans se dressent contre les bolcheviques et contre l'armée rouge parce qu'ils ne veulent pas qu'on réquisitionne leur blé, ces paysans sont en général très hostiles aux Blancs pour deux raisons. La première, c'est que la Révolution leur a donné la terre ou a confirmé le fait qu'ils voulaient mettre la main sur la terre, qu'ils avaient commencé à saisir dès juillet 1917. Et l'un des actes du gouvernement bolchevique, c'est un décret sur la terre qui socialise toute la terre. Et le deuxième, c'est que la paysannerie n'a plus du tout le moindre, ou quasiment plus du tout, le moindre sentiment monarchique. Et cela remonte à janvier 1905, c'est-à-dire le dimanche rouge ou dimanche sanglant.
Alors nous allons revenir sur ces deux idées que vous venez de développer, qui constituent un fil rouge de votre ouvrage. Mais avant tout, ce qui m'a surpris dans votre ouvrage, c'est le fait que, bien évidemment, notre perception tient à simplifier les choses. Les Russes blancs, on s'imagine un mouvement homogène. Et ce n'est pas du tout le cas. C'est un mouvement hétérogène, tout en mouvement, et ceci à travers la Russie, mais complètement dispersé.
Oui, alors c'est un mouvement qui a un aspect homogène, c'est-à-dire que ces troupes sont, quel que soit l'endroit où elles se trouvent et quel que soit leur chef, sont composés d'abord du corps des officiers. et secondairement de simples soldats, de paysans qui ont déserté de l'armée rouge, soit par exemple lorsque Wrangel, qui est l'un des principaux généraux blancs, fait je ne sais plus combien de milliers de prisonniers dans le sud, il prend les 370 officiers, il les fusille, et après il dit aux soldats, si vous voulez racheter votre péché, vous engagez chez nous. Bon, les soldats paysans rentrent dans cette armée de Wrangel, mais ils déserteront à la première occasion. Donc là, il y a un aspect, disons, d'homogénéité sociale, qui est donc le fait que cette armée est composée d'abord et surtout d'officiers. Mais en même temps, elle est dispersée pour deux raisons. La première, c'est que jamais il n'y aura de centre unique, ni militaire, ni politique des Blancs. Il y a à l'est, en Sibérie, l'armée du contre-amiral ou de l'amiral Kolchak. Il y a dans le sud l'armée des volontaires de Kornilov, Kaledin et Denikin, surtout puisque Kornilov meurt au début d'avril 1918, un peu grâce à son imprudence d'ailleurs, si j'ose dire. Il y a au nord l'armée du général Miller soutenue par les Anglais, et puis l'armée du général Judenich, qui commet d'ailleurs des maladresses, qui fait qu'il ne sera pas soutenu par les Finlandais ni les Estoniens. Et puis il y a au sud aussi l'armée du général Cosaque Krasnov, qui lui est lié aux Allemands. Donc il y a dans ces armées, ils ont un petit groupe qui est partisan de la restauration de la monarchie, mais la plupart de ces généraux, bien qu'ayant des sentiments monarchistes peu contestables, qu'ils exprimeront d'ailleurs une fois qu'ils seront dans l'émigration, ne prennent pas comme drapeau la restauration de la monarchie parce qu'ils sont profondément convaincus de l'impopularité de la monarchie depuis le massacre de janvier 1905 et puis depuis la catastrophe qu'a représenté la guerre dans laquelle la masse des soldats tués sont des paysans, puisque c'est la base du recrutement de l'armée tsariste. Et donc, et il leur manque, disons, un objectif politique précis. C'est très frappant, par exemple, lorsque Clémenceau envoie une lettre à l'amiral Kolchak en mai 1919, si mes souvenirs sont bons, il lui dit, il faut absolument que vous prononciez pour la convocation d'une assemblée constituante. Ben, Kolchak répond, oui, convocation d'une assemblée constituante. Mais une assemblée constituante, d'abord, il y en a une qui a été dispersée par les bolcheviks en janvier 1918, la masse des paysans, assemblée constituante, ils s'en fichent, c'est pas leur problème. Ce qu'ils veulent, c'est eux la garantie qu'ils garderont la terre. Et de ce point de vue-là, jamais les Blancs n'ont réussi à avancer quelque chose qui puisse convaincre des millions de paysans de se rallier à eux. Par exemple, une mesure frappante, c'est lorsque Denikin, à un moment, l'armée blanche de Denikin dans le sud avance en 1919, l'été 1919, avance de façon extrêmement rapide vers Moscou. Et il conquiert des territoires très très grands. Et Denikin instaure une règle, à savoir que bon, les paysans qui ont mis la main sur la terre en gardent l'usufruit, mais il faut qu'ils donnent un tiers de leur récolte à l'ancien propriétaire. Et le paysan, premièrement, n'a pas la garantie que cet usufruit va se transformer effectivement en propriété si Denikin gagne et les autres. Et deuxièmement, lui considère que c'est lui qui laboure la terre, c'est lui qui moissonne, le propriétaire qu'il juge, l'ancien propriétaire qui à son avis était toujours un faux propriétaire, il n'y a pas de raison qu'il lui donne un tiers de... Denikin dit d'ailleurs lui-même que ça a mal passé, mais c'est ce que les propriétaires qui étaient derrière Denikin voulaient. Mmh. Donc, et ça se retrouve un peu partout, dans tous les territoires occupés par les Blancs, ils ne peuvent pas trouver une réponse sociale qui satisfasse la masse de la paysannerie. Donc même lorsque celle-ci se dresse contre les Rouges, elle se dit quand même, bon ben demain, si les Rouges gagnent, moi au moins je garderai la terre. Mmh. Même si je me bats contre eux parce que je veux garder mon blé aujourd'hui. Mmh.
Donc il n'y a pas d'orientation politique au fond unique. Est-ce que ce qui réunit ces armées, c'est l'ennemi commun, la révolution bolchevique?
Oui, c'est ça qui réunit. Mais ça les réunit contre.
Mmh. Il n'y a pas de « et après ».
Voilà, c'est ça. C'est le « et après » est toujours dans le vague. Mmh. Alors, je sais bien que au fil des décennies, la masse des gens a appris à se méfier des programmes que l'on peut leur soumettre lorsqu'il s'agit d'élections. Mais là, il ne s'agit pas d'élection, il s'agit de ce qu'on annonce pour l'avenir. Et tout ça reste, disons, indécis par rapport aux besoins de la masse de la population ou à ses aspirations, puisque la Russie est un pays essentiellement paysan, 87% de la population, c'est la paysannerie, et la masse de cette paysannerie est pauvre. Et celui qui a le mieux compris ça chez les Blancs, c'est Denikine. Je vais faire une citation parce qu'elle est très caractéristique. Denikine, qui, parti en émigration, consacrera plusieurs années à écrire un énorme ouvrage sur la guerre civile, un ouvrage de 2000 pages, malheureusement peu a été traduit en français, et dans lequel il essaie de comprendre, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de raconter, il essaie de comprendre, de son point de vue à lui. Et parlant de la paysannerie, il écrit « Les trop longues années d'oppression et de misère qui avaient pesé sur les paysans, et surtout la terrible obscurité intellectuelle et morale dans laquelle le pouvoir et les classes dirigeantes avaient tenu la population rurale, ne faisant rien pour instruire, tout cela devait fatalement aboutir au châtiment historique. » Et il ajoute « Les paysans ne voulaient pas de la guerre, qui leur prenait et leur estropiait ces travailleurs, et donc jamais ceux qui se réclamaient plus ou moins clairement du rétablissement de l'ancien régime, pas forcément sous l'angle politique, mais sous l'angle social, ne pouvaient pas obtenir l'appui de ces couches. » Et là, Denikine le dit, à mon avis, bien. De son point de vue, il a clairement compris, mais il n'a pas pu trouver, lui, de réponse au problème qu'il soulève lui-même.
Et il y a une forme de lucidité chez beaucoup de ces hommes, de ces chefs, mais il n'y a pas de réponse.
C'est ça. D'ailleurs, la lucidité vient surtout quand ils réfléchissent après leur défaite. C'est très frappant. Si on regarde, si on compare les ordres du jour sur le moment, lors des opérations militaires, et ce qui est écrit par les mêmes après, par exemple, autour de l'armée de Denikine, il y a une espèce de conférence spéciale, c'est une conférence spéciale, qui en mars 1919 édite, publie un décret, je crois que c'est un décret, enfin peu importe le nom exact, disant qu'une fois qu'ils auront pris le pouvoir, seront livrés à mort tous ceux qui ont participé à l'arrivée au pouvoir des bolcheviks. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette formule? Tous ceux qui ont contribué à l'arrivée au pouvoir des bolcheviks. Le paysan qui lit ça, enfin, à qui on lit ça, parce que les deux tiers des paysans sont illettrés, en 1918. Ou qui apprend ça, peut se dire, après tout, moi, j'ai été au soviet du coin, dans mon village, j'ai voté pour ça. Est-ce que je suis concerné? Est-ce que je suis visé? Donc, l'aspect de restauration politique peut déboucher sur la restauration sociale. Et ça, c'est comme cette guerre civile est essentiellement une guerre sociale, d'une brutalité effroyable des deux côtés.
Vous décrivez avec force détail cet aspect effroyable.
D'ailleurs, c'est pas tellement moi qui le décris. La plupart du temps, ce sont les auteurs qui le décrivent. Parce que j'ai surtout voulu donner la parole à ceux qui ont écrit leurs souvenirs, en me disant qu'après tout, ils racontaient eux-mêmes ce qu'ils avaient vécu, avec, ce qui était intéressant d'ailleurs en général, une assez grande honnêteté factuelle. Quand on regarde les souvenirs de Roman Goul, de Sergueï Efron, de Vrangel, de Denikine, on peut pas dire qu'ils essaient de cacher grand-chose. La seule chose sur laquelle ils sont pas toujours très très loquaces, c'est sur le détail de l'aide qu'ils ont reçue de l'étranger, de l'aide en matériel, parce que l'aide militaire sur le plan de l'intervention des armées a été en fait extrêmement réduite pour un tas de raisons. D'abord parce que il y avait le désordre social dans une grande partie des pays d'Europe, même en Angleterre, ce qu'on a bien oublié depuis d'ailleurs. Et des deux côtés, moi j'ai trouvé une citation d'un bolchevique, Safarov, qui va au Turkestan en 1921 et qui fait une description des dégâts de l'armée rouge au Turkestan, de séquestration, pillage, etc., tout à fait hallucinante. Parce que les soldats de l'armée rouge se sont heurtés à une paysannerie locale, musulmane en général, relativement aisée, et ils se sont déchaînés. Donc ils ont dressé d'ailleurs les trois quarts de la population contre eux, ce faisant. Mais Turkestan, ça n'est pas la Russie. toute l'Asie centrale, c'est une autre situation sociale.
Alors, je reçois Jean-Jacques Marie, un auteur du livre « La guerre des Russes blancs 1917-1920 », paru aux éditions Talendier. Pourquoi le qualificatif de « blanc » Jean-Jacques Marie?
Alors ça, c'est une vieille discussion. Certains des blancs donnent à l'adjectif « blanc » une valeur, la pureté, la justice, etc. Il semble que le blanc... Ça vienne en particulier de la, comment dire,
du drapeau,
et puis d'une espèce de petite pas décoration, mais d'une partie de l'uniforme, sorte d'épaulette que faisait porter Kornilov au soldat de l'armée des volontaires quand il l'a constitué, puisque c'est lui qui en a été le premier vrai chef militaire, le chef officiel. Alexeïev était déjà un vieillard, pas tout à fait moribond, mais quand même, il mourra en octobre 1918. Et puis ensuite, c'est devenu leur nom à la fois dans la propagande rouge, par exemple. Bon, ben il y a les rouges, et puis
et y a les
ils
blancs.
Y opposent les blancs parce que c'est le nom qu'ils ont donné. Et je pense d'ailleurs qu'il y a dans l'acceptation par les blancs eux-mêmes de cet adjectif, quand même l'idée que le blanc c'est la pureté, le rouge c'est sanglant. Je crois qu'il y a un aspect de ce type-là. Bon, je suis incapable de dire dans quelle mesure ça les a convaincus, parce que en général ils s'étendent pas beaucoup sur le choix de ce, comme si ça allait de soi, quoi.
Alors il y a ce contexte de guerre, d'abord la guerre avec l'Allemagne, avec l'Autriche-Hongrie. Il y a les Alliés, mais il y a un contexte également de guerre civile. L'un ne va pas sans l'autre. Ces fameux volontaires, l'armée des volontaires, si on la qualifie d'armée des volontaires, c'est parce qu'au début, ces officiers étaient volontairement souhaités, on l'a dit avec les nuances, une forme de restauration. Mais il y a bien cette idée de volontariat, même chez les soldats, ou chez les soldats, c'était beaucoup plus, beaucoup plus flexible.
Oui, alors au début, et d'ailleurs l'armée des volontaires gardera ce nom à la fin 19, au début, Alexeïev, Kornilov et Denikin, qui lancent cette armée, font un appel à des volontaires. Pour quelle raison? Parce que l'ancienne armée, l'armée, disons, de l'époque tsariste, a volé en éclats. Cette armée, le corps des officiers de cette armée est très démoralisé pour deux raisons. La première, c'est que la guerre s'est terminée de façon catastrophique pour cette armée. La guerre contre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, le corps des officiers lui-même a subi des pertes énormes, très simples. Vous savez, c'est une armée qui a subi des pertes gigantesques, en particulier à cause de la faiblesse de son armement. Denikin raconte la bataille de Pchemysl, par exemple, qui date de 1916, dans laquelle il décrit les tranchées dans lesquelles se trouvent les soldats russes soumis à un bombardement continu pendant 11 jours, et alors que l'artillerie russe n'a pas d'obus pour répondre, et donc les soldats et les officiers d'ailleurs subissent un massacre à peu près tout à fait effroyable. Denikin raconte en plus, il en veut beaucoup au général qui commande le front sud-ouest, le général Brusilov, parce que ce général, du fond de l'endroit où il est logé, lui à 20 ou 25 kilomètres du front, ose écrire ou raconter dans un ordre du jour aux soldats, pour les consoler, que la plupart des obus allemands manquent leur cible, ce qui évidemment provoque chez les soldats et chez les officiers concernés une rage profonde. Et donc voilà une armée qui ne cesse de reculer, où le nombre de déserteurs est très grand, à tel point d'ailleurs qu'il y a un débat très important lors du congrès des soviets qui va donner le pouvoir aux bolcheviks. C'est que lors du décret, on n'en parle quasiment jamais d'ailleurs, lors du vote du décret sur la terre, un certain nombre de soldats qui sont là, présents, qui sont élus par leur comité, disent oui d'accord, mais il faut exclure les déserteurs du bénéfice du décret sur la terre, parce qu'eux, ils nous ont laissé tomber, il n'y a pas de raison qu'eux reçoivent de la terre. Alors évidemment, Lénine est un peu embêté, mais il y a eu 2 millions de déserteurs, ils se les mettent sur le dos. Bon, donc finalement, il essaie de passer par-dessus ce petit problème. Mais et ces déserteurs, parfois, lorsqu'ils désertent, égorgent leurs officiers avant de déserter. Surtout si les officiers essaient de les empêcher. Donc vous avez encore des officiers très démoralisés pour ces deux raisons. Des défaites successives et puis le fait de voir les centaines de milliers de soldats se dresser contre eux. Donc beaucoup restent passifs devant ce qui se passe. Et d'ailleurs, le correspondant du Parisien, oui, Claude Anet, dont on a publié récemment les correspondances sur la Russie en 1917-1918, est tout à fait choqué par le fait que la masse des officiers reste passive. Et lui, c'est très facile. De son bureau, il peut leur reprocher. Il n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu. Et c'est la raison pour laquelle Denikine et ses amis font appel au volontariat. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas, se présenter. Eux, voilà, nous, généraux de l'armée sortante, nous décidons que les officiers de tel régiment, etc., etc., doivent nous rejoindre. Et en gros, si vous voulez, ce qui marquera, d'ailleurs, c'est l'une des raisons des défaites des Blancs, c'est qu'en gros, sur 100 officiers de l'armée tsariste, vous en avez un tiers qui ne s'engage d'aucun côté. Vous avez un tiers qui s'engage du côté des Rouges. Alors, on expliquera souvent que c'est à cause du décret sur les otages pris par Trotsky, mais j'ai découvert que c'était absolument faux. Il n'y a jamais eu de recensement des otages, et ça s'est réservé à quelques cas très limités, à tel point d'ailleurs que lorsque les Blancs faisaient prisonniers des troupes rouges et qu'il y avait des officiers de l'ancienne armée tsariste dedans, ils les fusillaient, considérant que c'était des traîtres, même si le gars leur disait, mais il y avait le décret sur les otages. Non.
Et vous expliquez bien dans votre livre qu'il y a ce décret, mais il n'y a pas les moyens pour mettre en œuvre le décret.
Absolument, il n'y a aucun moyen.
C'est ce qu'on ne voit pas, en fait. D'où mon introduction, on n'imagine pas finalement les difficultés que rencontrait même Trotsky et son armée qui au début n'était pas importante.
Au début c'est une armée de rien du tout. Oui. C'est une armée de gardes rouges. Au début c'est une armée de volontaires aussi d'ailleurs. Hein, la conscription sera décrétée seulement à partir d'août 18. Donc dans les deux côtés d'ailleurs vous avez des armées de volontaires. Donc les volontaires sont quoi? Sont des jeunes ouvriers, membres des jeunesses communistes, qui se sont formés pendant l'été 1917, qui n'ont jamais participé, qui n'ont jamais été membres, été soldats, qui n'ont aucune formation militaire, et heureusement qu'ils n'ont à livrer que des combats tout à fait minimes jusqu'en mai 1918, lorsqu'ils se heurtent aux légionnaires tchécoslovaques, c'est-à-dire les anciens prisonniers tchécoslovaque de l'armée austro-hongroise, qui se faisait faire prisonnier d'ailleurs avec beaucoup de facilité, parce qu'il n'avait aucune envie de se battre pour l'empereur d'Autriche-Hongrie, puisqu'ils attendaient l'indépendance de leur pays, qui sera d'ailleurs proclamée avant la chute, avant l'effondrement du royaume d'Autriche-Hongrie. Et il commencera à y avoir une armée rouge réelle à partir du moment où il y aura conscription, et puis formation militaire, d'ailleurs en fait ça commence à partir de, août, septembre 1918, au même moment d'ailleurs où l'armée blanche commence elle aussi d'ailleurs dans le sud à se former comme une armée réelle avec corps les officiers, et moment où d'ailleurs à partir de ce moment-là, on cesse de fusiller les prisonniers d'en face, parce que après tout les prisonniers d'en face...
Ils peuvent être des soldats. Et alors c'est aussi fascinant dans votre ouvrage, on voit des soldats, des officiers, vous le disiez tout à l'heure, passer d'un camp à l'autre comme si de rien n'était. Ce qui montre l'époque troublée que c'était.
Oui, c'est une époque. D'abord, prenez toute révolution prolonge et aggrave forcément le désordre qui l'a engendré. Parce que si une révolution en octobre 17, on dit coup d'État, mais c'est pas un État. Le journal des Izvestia des soviets, alors tenu par, les mencheviks et les sexes révolutionnaires, explique mi-octobre qu'il n'y a plus de quoi nourrir personne, tout va s'effondrer, le journal de Gorky est désespéré, c'est un pays qui se disloque. Et qui va, la famine est menaçante, et d'ailleurs, bien sûr, elle va, non seulement elle est menaçante, mais elle va encore s'aggraver. C'est un pays ravagé par la famine, donc tout s'effondre. Et donc chaque force se constitue dans une situation d'effondrement. Et de ce point de vue-là, les bolcheviks ont une supériorité sur les blancs, c'est qu'eux ont des dirigeants politiques qui ont des idées claires en tête et qui sont d'une fermeté, enfin surtout Lénine d'abord et puis Trotsky, et qui ont une capacité d'avancer des propositions, de prendre des décisions et de les faire mettre en œuvre, parce qu'il y a, un centre unique, entre autres. Chez les Blancs, il n'y a pas de centre unique. Rendez-vous compte que les communications entre Denikin dans le sud et Kolchak à l'est passent par Londres et Paris. Parce que s'il faut envoyer quelqu'un par bateau du sud de la Russie vers la Sibérie, ça met au moins 2 mois. Si en plus l'envoyé n'est pas chopé par les Rouges en même temps. Donc vous avez cette dispersion qui est aggravée d'ailleurs par les ambitions individuelles de chacun. C'est-à-dire que même si à un moment, lorsque Kolchak à l'Est se proclame régent, lorsqu'il prend le pouvoir en novembre 1918. Et il est reconnu comme régent, c'est-à-dire celui qui dirige la Russie, théoriquement, en l'absence d'un roi, dont personne ne veut à ce moment-là. Les autres finissent par reconnaître son autorité de régent, mais c'est purement formel. C'est-à-dire que, par exemple, jamais il n'y aura de lien entre l'armée du Sud, qui s'appelle toujours l'armée des volontaires, même si elle est plus constituée de volontaires, et l'armée de Kolchak en Sibérie. Jamais il n'y aura de liaison entre l'armée de Denikin dans le sud et l'armée de Yudenich près de Petrograd ou de Miller dans le nord. Ce sont toujours des forces distinctes. Même si elles ont un but plus ou moins commun, il n'y a aucune coordination ni militaire ni politique.
Oui, vous montrez que les politiques même constituent un élément perturbateur du jeu, parce que ça complique, ça augmente les égos et ça développe finalement un sentiment plus de séparation que d'unité.
Alors pour deux raisons, oui, enfin, je dis toujours pour deux raisons, mais c'est pas une manie. La première, c'est que beaucoup d'officiers et de militaires se méfient de ces politiques. Par exemple, lorsque l'armée des volontaires s'engage dans ce qu'on appelle la marche de glace, ils ont un long convoi qu'ils traînent, et pour un certain nombre de généraux, parmi dans les convois qu'ils traînent, il y a un convoi qui leur paraît vraiment perdu, c'est celui qui transporte les politiques, qui eux, bien entendu, ne peuvent pas se déplacer à cheval ni à pied. Et puis deuxièmement, ces politiques ont beau être du côté des Blancs, ils sont divisés entre eux. Ils sont divisés entre eux. Vous avez ceux qui appartiennent à ce qu'on appelle le parti cadet, c'est-à-dire le parti constitutionnel démocrate dit cadet à cause des initiales russes. Et ceux qui, bien que s'appelant constitutionnel démocrate, certains sont plus ou moins partisans d'une restauration de la monarchie, d'autres sont plus ou moins partisans du maintien d'une république avec une république forte, quoi. Et puis vous avez des nostalgiques de la révolution de février qui voudraient revenir donc à cette époque-là, au lendemain de la révolution de février. Par exemple, un dénommé Tchaïkovski qui n'a rien à voir avec le musicien, qui fait partie du gouvernement de Denikin à un moment. Bon, qui fait partie de ces nostalgiques de février. Donc, pour beaucoup de généraux, ces politiques introduisent des ferments de division. Et en même temps, comme ils ont une vision politique, quelle que soit la valeur de cette vision politique, ces politiques sont souvent critiques à l'égard des mesures prises par les militaires. Maintenant, vous avez certains généraux blancs qui sont renommés parce qu'ils sont particulièrement brutaux, comme a donné Pokrovski, d'ailleurs, qui lui écrira des mémoires avant de se faire assassiner en Bulgarie en 22 par je ne sais pas qui, d'ailleurs. Jamais réussi à trouver qui l'avait tué. Bon, alors, lui, c'est un pendeur. Bon, il est soumis à des critiques, parce que, y compris d'ailleurs de la part de certains de ses supérieurs, comme Wrangel, parce qu'il explique que, bon, ben, un paysan pendu, ça fait 10 paysans qui se dressent contre l'armée blanche. Donc, eux, par exemple, ils élaborent un programme politique. Dans mon livre, je cite en particulier un programme élaboré par un général, d'ailleurs, s'appelle Makrov, dont le frère est général dans l'armée rouge, dont la femme est prisonnière, enfin, elle est prisonnière, elle est dans son, dans sa maison, mais enfin, bon, elle est quand même dans un territoire occupé par les Rouges, résidence. Bon, et qui élabore un programme qui ne sera jamais appliqué, d'ailleurs, ni par Denikin, ni par Wrangel. Était-il applicable? Ça, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, bon. Donc, vous avez toute une série de divergences qui peuvent apparaître minimes au regard de ce qui se passe, mais qui sont autant de foyers de division. Après tout, des divergences minimes peuvent s'avérer importantes.
Alors pourtant, il y a des moments que vous identifiez, notamment ce que vous avez appelé le tournant décisif, il y a des moments où l'armée blanche aurait pu très bien prendre le dessus sur ce que nous disions tout à l'heure, cette armée rouge qui était à l'état aussi embryonnaire, notamment, je ne sais pas si je prononce correctement le mot, à Sviask.
Sviask, oui.
À Sviask, où l'ignorance fait que l'armée blanche rate l'occasion de s'ouvrir la route de Moscou.
Oui, c'est début septembre, fin août, début septembre 1918. Oui, là, c'est un épisode. Là, on peut dire que le hasard joue un rôle très important, puisque c'est le début, du passage de l'armée rouge d'une armée de volontaires à une armée, disons, enfin, professionnelle, si on veut, c'est encore un peu. Et lorsqu'arrivent les détachements des Blancs avec les légionnaires tchécoslovaques, ils prennent Kazan, les soldats de l'armée rouge s'enfuient à toute allure. Bon. Et ils arrivent aux abords de Sviask, où il ne reste pas grand monde comme soldats. Trotsky décide de quitter Moscou pour s'y installer avec son train. Alors, ce qu'on appelle les trains blindés, à l'époque, vous savez, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on appelle un train blindé, disons, depuis la Première Guerre mondiale. En fait, ils sont blindés avec des sacs de sable ou avec des planches arrachées ici ou là. Et ça peut pas vraiment faire un obstacle à des obus d'un petit calibre. Enfin bon, ils s'installent là, ils décrochent la locomotive. Il est là avec quelques-uns de ceux qui seront importants dans l'armée rouge de demain, et le général blanc Capel, qui pourtant est un des meilleurs généraux de l'armée blanche, s'arrête à quelques kilomètres de la station de Sviask parce que il ne sait pas ce qu'il y a en face. Il ne sait pas qu'il y a le train de celui qui est chargé de créer l'armée rouge. Il ne sait pas qu'il n'y a pas grand monde comme force, donc il n'a aucun service de renseignement. Ce qui quand même, ma compétence militaire est très mince, puisque j'ai fini mon service militaire comme première classe. Mais je crois savoir quand même que le renseignement est un élément
absolument
très important, très important des opérations militaires. Là, il ne sait rien. Et donc, il se livre à une manœuvre d'encerclement qui va lui faire perdre 48 heures. Ces 48 heures sont utilisées par Trotsky pour reprendre en main des troupes qui sont là, il fait fusiller quelques déserteurs, membres du Parti communiste, parce que les soldats disent, oui, quand on déserte, si on n'est pas membre du Parti communiste, on est châtié, et les autres, ils sont pas châtiés, non. Et là, il rétablit en même, en 48 heures, une espèce de petite armée, et finalement, bon, les Blancs pouvaient s'ouvrir la route de Moscou, il restait plus grand monde pour s'opposer à leur avance. Alors évidemment, je sais pas ce qui serait passé. Mais quand même, là, il y a un moment, c'est tournant. Un autre moment tournant, c'est mars 1919, quand l'armée de Kolchak en Sibérie commence une offensive face à une armée rouge très démoralisée, où les Blancs sont tellement sûrs de gagner qu'ils s'opposent à une proposition qui est faite par les Américains. Les Américains font une proposition. On fait une proposition en janvier, que d'abord Lénine a rejeté, et puis qu'il accepte en mars, à savoir, on fait une conférence à Prinkipo, d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils avaient choisi Prinkipo, des chefs blancs, de tous les chefs, des chefs bolcheviques, pour parvenir à un accord d'un armistice, chacun gardant le contrôle des territoires qu'il contrôle au moment où la conférence s'est réunie. Et les Blancs, bon, pour eux, les bolcheviks sont ou des agents allemands ou des représentants de la populace, mais surtout, ils sont sûrs, à ce moment-là, de gagner. Donc, ils envoient promener la proposition, enfin, les Américains, ils refusent, bien. Et moment tournant, parce que c'était juste à ce moment-là que sur le front, enfin c'est pas tout à fait à ce moment-là, c'est un mois plus tard, sur le front de l'Est, les troupes de Kolchak vont commencer à se décomposer.
Et donc s'ils avaient accepté cette conférence, il y aurait une sorte de statu quo.
Il y aurait une sorte de statu quo, oui. Où les Blancs auraient gardé en gros les trois quarts du territoire de la Russie, enfin puisqu'ils gardaient quasi toute la Sibérie, donc effectivement, une petite partie du sud, bon, pas grand-chose au nord, Arkhangelsk et Mourmansk, enfin quand même, c'est pas rien. Et puis, bon, la Lettonie, qui à l'époque n'était pas indépendante, et l'Estonie, qui à l'époque n'était pas indépendante, bon. Ils ont raté cette occasion, parce que Lénine est tellement persuadé qu'il risquait de perdre tout, qu'ils avaient déjà préparé le fait de se fuir à l'étranger pour ne pas être pendu.
Oui, oui.
Y compris des faux papiers.
Oui.
Donc là, les Blancs ont raté une occasion qui ne se représentera jamais, même lors de la troisième offensive du Sud, lorsque en juillet 1919, Denikin lance une directive vers Moscou. Et ils sont tous pleins de, dans l'armée du Sud, ils sont pleins de certitudes qu'ils vont arriver, qu'ils vont prendre Moscou. Et ils arrivent jusqu'à 200 km de Moscou, mais là, ils se heurtent à un événement qu'ils n'avaient pas prévu. C'est les insurrections paysannes derrière eux, et entre autres, mais pas seulement, l'armée de Makhno, l'armée de l'anarchiste Makhno, qui a réuni, rassemblé une armée de près de 50 000 paysans. Et leur objectif, c'est clair et net, ils veulent leur république paysanne dans la région qu'ils contrôlent, c'est-à-dire une région pas tout à fait grande comme la France, au centre de l'Ukraine. Et ils déclenchent ces insurrections, mais les paysans se soulèvent aussi un peu partout. Et brusquement, l'armée blanche doit consacrer une partie importante de ses forces à écraser ces insurrections, qui évidemment menacent son ravitaillement. Et la débandade est quasiment aussi rapide que l'offensive. Et là, ils ont vraiment espéré aussi.
Est-ce que vous avez évoqué les États-Unis, Jean-Jacques Marie? Est-ce qu'il existe une politique russe à l'égard des Blancs de la part des Alliés, des Français, des Anglais? Et donc, vous avez parlé des États-Unis.
Alors, ça n'est pas la même politique. Il existe une politique d'abord du gouvernement français, qui est le plus acharné à vouloir participer à l'écrasement de la révolution russe. Clémenceau est particulièrement décidé sur ce point, à tel point que c'est lui qui fait organiser le blocus de la Russie soviétique du 1er janvier 1919 au 1er janvier 1920. Et c'est lui qui élabore l'idée de d'édifier une série d'états tampons le long de la frontière occidentale de la Russie soviétique. Deuxièmement, c'est lui qui essaie de la façon la plus nette d'organiser une assistance militaire aux armées blanches. Et ça se manifestera par exemple que la dernière armée blanche, celle du général Wrangel, qui est en Crimée d'avril, enfin mars-avril 1920 jusqu'à novembre 1920, c'est la France qui fournit en armes cette armée, c'est la France qui va aider à son évacuation, à l'évacuation de cette armée par bateau, les bateaux d'ailleurs qui évacueront l'armée Wrangel, y compris ceux qui appartiennent à la Russie, seront ensuite à Bizerte, seront stationnés à Bizerte, qui à l'époque est la Tunisie et colonie française. Et c'est eux, c'est la France, donc, qui est la plus décidée dans ce domaine. L'Angleterre aussi, mais de façon beaucoup plus modérée pour deux raisons. Le premier ministre anglais, Lloyd George, se convainc assez vite qu'on ne peut pas vaincre le bolchevisme par les armes, comme il dira à un moment de l'été 1919. Donc les Anglais sont beaucoup plus modérés, ils envoient des troupes dans le nord de la Russie, c'est-à-dire à Arkhangelsk et Mourmansk. Alors ces troupes ont comme caractéristique de s'avancer avec une extrême lenteur dans quelle que soit l'opération à laquelle ils participent. Et s'il n'y avait pas eu dans le nord des détachements blancs de pêcheurs, qui eux sont monarchistes de cœur, 3000 pêcheurs déchaînés d'ailleurs, de Pitchega, cette République blanche n'aurait pas tenu très longtemps. En tout cas, les Anglais servent de force d'appoint, ils fournissent un peu d'armement, quelques navires, surtout pour rembarquer ces troupes. Les Américains ont une politique beaucoup plus modérée, oui, beaucoup plus retenue. C'est-à-dire que, bon, ils vendent des armes à Kolchak. Comme Kolchak a mis la main sur le trésor impérial que les bolcheviks avaient caché à Kazan, mais comme ils prennent Kazan, ils mettent la main sur le trésor. Les Américains vendent des armes. Ce sont d'excellents vendeurs, en général, d'armes. Mais ils envoient un détachement de 7000 hommes en Sibérie, qui ne participent en fait à aucune opération militaire. Ils sont là surtout pour surveiller les 57 000 Japonais qui ont débarqué en avril 1918, et qui d'ailleurs, eux, disons, ont mis la main sur une partie du territoire au-delà du lac Baïkal, qui ont à leur service alors deux aventuriers blancs qui échappent au contrôle des autres blancs, et à commencer par l'amiral Kolchak qui commande la Sibérie, dont là est fou. Le baron Ungern, Sternberg Ungern, qui est un fou, vraiment un fou complet, lui. Et puisque il rêve d'instaurer une espèce de monarchie plus ou moins bouddhiste. Enfin bon. Et l'autre, qui est un aventurier, Semyonov, qui est financé par les Japonais, qu'il contrôle. Mais les Japonais ne vont pas plus loin. Bon, ils sont installés à Vladivostok, mais enfin bon. Ils n'engagent pas leurs troupes en Sibérie, même au-delà du lac Baïkal. Ils se contentent de rester là, et les Américains les surveillent, parce qu'ils ne veulent pas que les Japonais mettent la main sur la Sibérie. Et bien entendu, ils ont quand même racheté l'Alaska en 1867, pour une bouchée de pain d'ailleurs. Le tsar Alexandre II était vraiment un homme généreux. Et c'est pas pour laisser les Japonais mettre la main sur l'autre côté. Donc eux, une politique très réservée, et Wilson est très inquiet, donc c'est pour ça qu'il essaie de s'entremettre en mars 19 pour essayer de proposer une conférence de paix qui aboutisse à ce que la guerre finisse là-bas.
Alors Jean-Jacques Marie, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Il y a votre dernier chapitre, qui est, nous le disions avant cette émission, celui qui intéresse peut-être le plus le grand public, c'est pourquoi ont-ils perdu ? Pourquoi ces hommes qui, de façon très régulière, sont persuadés que la victoire est au bout de leur fusil, de la baïonnette, ont perdu ? Et une des raisons invoquées, c'est notamment la responsabilité des alliés. Est-ce que vous considérez que les alliés ont une responsabilité dans cette défaite ?
Alors avant de répondre à la question, je voudrais rappeler que un certain nombre de dirigeants bolcheviks étaient hostiles à l'insurrection parce qu'ils étaient persuadés qu'ils ne tiendraient pas 15 jours. Vous avez par exemple dans les notes sur la révolution bolchevique de Jacques Sadoul, qui était membre de la mission militaire française à Petrograd à ce moment-là, il rencontre Alexandra Kollontai, qui est la première ministre femme que le monde ait jamais connue, et qui prendra un certain nombre de mesures pour l'émancipation des femmes. Il la rencontre, alors voir comme elle est belle, il fait une description d'elle, en disant qu'un ministre comme ça, elle n'en a jamais vu, mais surtout elle lui dit que bon, ce qui est important, c'est les mesures que nous prenons tout de suite, parce que ça laissera un héritage pour après. Et elle dit comme les mesures de la commune, quoi. Donc elle envisage qu'ils vont... le commissaire du peuple à l'instruction, Lunacharsky, dit à un de ses camarades, bon, dans 15 jours, on sera pendu, au rebord des fenêtres de nos bureaux. Et Zinoviev et Kamenev étaient contre la prise du pouvoir, parce qu'ils étaient persuadés que les bolcheviks ne pourraient pas tenir 15 jours. Et un certain nombre pensent ça, donc... les missions militaires françaises, anglaises, américaines, les ambassadeurs français sont persuadés que les bolcheviks vont tenir trois semaines, un mois. Qu'ils vont être balayés parce qu'ils sont minoritaires, tout ça. Donc, bien évidemment que les Blancs pensaient ça, même bien que leurs forces fussent très limitées au début, ils pensaient un peu la même chose. Bon, tout ça, c'est la populace, c'est des voyous, c'est ce qu'on veut. Bon, puis en plus, ils n'ont aucune compétence militaire. C'est vrai que pour ce qui est des compétences militaires, Trotsky n'avait jamais appartenu à quelque formation militaire que ce soit. Enfin, c'est pas lui qui s'occupait des décisions militaires, en fait. Bien. Alors.
Responsabilité des alliés.
Voilà. Comme ils ont été battus, ils ont cherché à représenter des alliés. Or, cette responsabilité, ils la voient en général dans deux domaines. Premièrement, ils n'ont pas accordé assez d'importance au phénomène, disons, bolchevique ou communiste, donc ils n'ont pas jugé bon de le combattre parce qu'ils pensaient que ce phénomène n'était menaçant qu'en Russie. Or ça, quand on regarde les déclarations des dirigeants des pays européens, par exemple en janvier 19, on s'aperçoit qu'ils ne savent pas ce qu'ils pensent. Clémenceau, parce que d'abord il y a eu la révolution qui a renversé la monarchie allemande et autrichienne en novembre 18, qui a débouché sur une première vague révolutionnaire en Allemagne et en Autriche. Vous avez l'Italie est secouée de fond en comble, et Clémenceau déclare le 19 janvier 19, si le bolchevisme gagne l'Italie, ça va menacer toute l'Europe. Donc, ils ont cette perception, cette conscience d'un danger social pour eux tous. Lorsque le dirigeant syndicaliste anglais Bevin, alerte, qui sera plus tard ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre au lendemain de la Deuxième Guerre, et qui sera l'un des plus solides adversaires de Staline, déclare au Premier ministre Lloyd George, non, n'intervenez pas là-bas, sinon vous allez semer le désordre chez nous. Donc vous avez de ce point de vue-là, les Blancs se trompent. Alors, deuxièmement, ils affirment que l'aide militaire n'a pas été à la hauteur. Alors, si on regarde l'intervention militaire, on dit 14 pays sont intervenus, c'est vrai. Mais quelle est la réalité de leur intervention ? D'abord, elle est très minime en nombre de soldats, parce que dans beaucoup de ces pays, vous avez règne une tension sociale énorme. Même en Espagne, qui pourtant n'a pas été touchée par la guerre elle-même.
Et puis ils sortent d'une guerre. Enfin, l'Espagne non, mais la France sort d'une guerre, l'Angleterre sort d'une guerre.
L'Angleterre sort d'une guerre, l'Italie sort d'une guerre, la Bulgarie, n'en parlons pas, sort d'une guerre. La Grèce ne sort pas d'une guerre, mais tout ce qu'elle peut faire, c'est envoyer 2000 soldats, qui sont d'ailleurs eux très déchaînés. Qu'est-ce que la France envoie comme soldats ? Elle envoie beaucoup de troupes coloniales. Vous avez un jour, dans le sud, des troupes coloniales, les Algériens et des Sénégalais, dont le sort est d'ailleurs particulièrement triste, vous avez un détachement qui sort de l'armée rouge, qui devient un détachement, pas blanc d'ailleurs, mais détachement de troupes, même pas vertes, on les appelle les Verts à l'époque, mais enfin bon, sans rapport avec les Verts aujourd'hui, dirigé par un aventurier qui s'appelle Grigoriev. Bon, ils prennent Odessa. Là, il rassemble les prisonniers et il met d'un côté les Algériens et je sais plus qui d'autre, et puis les Russes. Et pour les Algériens et je sais plus quels sont les autres étrangers, il dit à ses cavaliers, allez, vous les chargez au sabre. Et il découpe tout ce monde-là à coups de sabre. Les Russes, il leur fait, vous venez chez moi et vous serez tranquille. Bon, évidemment, ils vont chez lui puis ils déserteront au premier coup. Donc, sur le plan des forces militaires engagées, ils ont engagé, à mon avis, ce qu'ils pouvaient engager. Si vous avez lu le Capitaine Conan, vous avez vu le film Capitaine Conan, c'est très intéressant parce que Tavernier nous montre, c'est ce que montre Vercel dans son roman d'ailleurs, comment les soldats français envoyés là-bas pour combattre les Rouges, pourtant ce sont des soldats qui sont volontaires pour y aller, se découragent très très vite. Ce sont des armées qui, d'abord, ils n'en veulent plus de la guerre, la plupart des soldats de ces pays-là. Et je vous l'ai dit, les soldats anglais ne veulent pas vraiment se battre. Ne parlons pas des soldats américains qui considèrent qu'ils n'ont rien à faire en Sibérie. Alors deuxièmement, sur le plan de la fourniture de matériel, là, les Blancs ont été bien ravitaillés. Bien ravitaillés. Le seul problème, si j'ose dire, peut-être pas le seul, mais c'est que la corruption, et ça j'ai cité beaucoup de textes des Blancs qui évoquent la corruption dans leurs propres troupes, sur le front de Sibérie par exemple, vous avez le général anglais Knox qui s'occupe du point de vue de l'Angleterre, du soutien aux Blancs, et qui se bagarre avec le général français Jeannin, qui lui est chargé par Clémenceau, la même chose, constate avec stupeur qu'un certain nombre de prisonniers de l'armée rouge sont habillés avec des équipements anglais. C'est-à-dire que vous avez le même problème que celui qui se passera dans les armées chinoises de Chiang Kai-shek en 46, 47, 48 en Chine. Une bonne partie des officiers vendent les armes ou les équipements qu'ils reçoivent aux gens d'en face, qui payent avec des roubles qu'il faut utiliser très vite parce qu'ils se dévaluent chaque jour, ou qui payent en vodka, je ne sais pas, mais ils payent d'une certaine façon. Donc, et l'un de ceux qui décrivent la façon la plus, ce sont des blancs qui décrivent la façon la plus brutale la corruption de cette armée blanche. L'un c'est Savitch, l'autre c'est Makrov, et puis Wrangel et Denikin eux-mêmes, qui en font un tableau désespéré et désespérant. Le cas le plus caractéristique, c'est le fameux raid de Mamontov, où vous avez un général blanc qui s'enfonce dans les territoires occupés par les rouges, que l'armée rouge essaie d'éviter à toute force parce que c'est une troupe redoutable, mais au bout d'un certain temps, ils s'occupent que de piller et ils reviennent vers le sud en évitant à leur tour maintenant les rouges, entraînant derrière eux 6 ou 7 kilomètres de choses qu'ils ont pillées. C'est-à-dire que vous avez une des raisons de la défaite de l'armée blanche, et c'est ça qu'en général les chefs blancs refusent de voir, ont du mal à accepter, c'est que cette armée, ceux qui constituaient cette armée, en fait, avaient, je pense, dans le fond de leur tripe, l'idée qu'ils n'arriveraient pas à gagner. Peut-être pas tous, bien entendu, s'ils n'auraient pas continué. Mais c'est quand même ce qu'on sent quand on lit les souvenirs de Denikin, Wrangel. Et on sent qu'il manquait dans cette armée un ressort qu'il y avait plus dans l'armée d'en face.
Eh bien, c'est sur cette absence... Jean-Jacques Marie, que nous allons nous quitter. Il y a bien d'autres raisons à vous décriver. J'en ai compté, il y a plus de 18 raisons que vous donnez, que vous décortiquez en faisant la part de ce que vous estimez justement raisonnable et non raisonnable. Et donc, je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage. Donc, Jean-Jacques Marie, La guerre des Russes blancs, 1917-1920 aux éditions Talendier. Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Très chers auditeurs, pour votre fidélité, je remercie à la technique Georges qui, toujours fidèle, nous accompagne. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro des Grands Entretiens.